Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de partager avec vous ces 57 minutes interactives dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le lundi 10 août dernier, près de 385 enseignants du niveau primaire de la capitale congolaise ont été mis à la retraite. Au cours de la cérémonie organisée à leur intention, ils ont perçu chacun une somme de 5 millions de francs congolais, soit 2 500 $, équivalent à 13 mois de leur salaire mensuel au grade transporté. Donc, c'est-à-dire grade élevé, comme allocation de fin de carrière, assortie d'une garantie des soins de santé et d'une rente de survie mensuelle. Alors, comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore en composant les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook. Jocelyne Mukendi et Dieudonné Nyangasa assurent la coordination et la réalisation de cette émission présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Jean Bosco Pouna qui est avec nous. Bonjour Monsieur Pouna.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire général de Cinecat. Vous avez suivi l'actualité comme nous. Et selon les informations en notre possession, vous avez participé à la matérialisation de ces projets, de la mise en retraite de 385 enseignants qui constituent la première vague. Alors, comment avez-vous, vous êtes arrivé à matérialiser ces projets?
Oui, merci beaucoup. Mais je crois que je vais vous décevoir. Si je dois vous dire que nous n'avons pas effectivement participé à ce que nous appelons aujourd'hui complot. Parce que au départ, oui, mais par la suite, les choses n'avaient pas véritablement marché. Et donc, il faut déjà dire que ce processus est un processus biaisé. Même lorsque vous parlez de 5 millions de francs congolais qu'on aurait remis aux retraités, je crois qu'il faut vérifier l'information parce que à notre possession à ce jour, jusque-là, aucun enseignant n'a bénéficié de ces fameux 2 500 $ américains parce que il est fait obligation à ces quelques éligibles de pouvoir ouvrir de nouveaux comptes pour que l'argent soit viré. Donc le processus est véritablement irrégulier de telle sorte qu'au niveau de la synergie des syndicats des enseignants, de la RDC, nous ne sommes pas d'accord avec cette retraite cavalière du ministre. Parce que JR, laissez-moi vous dire que pour une retraite, eh bien, il y a des principes. Le ministre de l'EPST n'a pas qualité à pouvoir amener les enseignants à la retraite. Parce que la retraite dépend d'un programme spécial du gouvernement hein, qui doit mettre à la retraite. Et le ministre de la fonction publique doit être mis à contribution parce que c'est lui le premier gestionnaire du personnel des agents de l'État, de la République. Et donc, tous ces principes n'ont pas été mis à contribution. Voilà pourquoi tous les enseignants, même ceux-là qui ont été identifiés, ils ne sont pas d'accord avec cette retraite-là. C'est une retraite cavalière, irrégulière et indigne.
Alors, qu'est-ce qu'il aurait été fait pour que ça soit régulier?
Bon, dans un premier temps, regardez, le ministre envoie les gens à la retraite sans soubassement juridique. Mmh. Il n'y a pas d'acte administratif, pas d'acte juridique. Par acte administratif, nous entendons les notifications. Les enseignants ne sont pas notifiés, et puis on les surprend avec une retraite. Figurez-vous, le ministre vient de faire 3 mois. Regardez, c'est vraiment de la complaisance. Il vient de faire plus ou moins 3 mois, et puis il envoie des agents, des enseignants à la retraite, sans les avoir notifiés. Et la deuxième chose, jusque-là, il n'y a pas encore d'acte juridique, c'est-à-dire il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas d'arrêté qui met ses agents, qui met ses enseignants à la retraite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il n'y a aucune planification. Aucune planification, c'est-à-dire que les retraités n'ont pas été préparés. Parce que la loi dit qu'il faut au moins une année de préparation. les enseignants qui vont en retraite cette année devraient avoir été informés depuis l'année passée. Cela n'a pas été fait. Et aussi, les calculs de la procédure des calculs des indemnités de fin de carrière. Je crois que cette procédure-là a été véritablement entamée. Nous ne savons pas sur base de quoi le ministre a présenté les 2 500 $, parce que nous n'avons pas une base salariale, il n'y a pas une politique salariale. Eh bien, il a fait des calculs sur base de ce qui est payé aujourd'hui. Or, nous savons tous qu'en province, les enseignants ne touchent pas ce que touche un enseignant de Kinshasa. Donc, c'est encore maudit que c'est vraiment une procédure que nous ne pouvons jamais accepter. Pour un enseignant qui a rendu de nobles services à l'État, vous lui donnez 2 500, c'est-à-dire il va continuer à demeurer locataire, et d'ici là, il va être viré. Je crois que le ministre doit revoir sa copie.
Vous dites que le ministre doit revoir sa copie.
Il doit absolument revoir, parce que d'ailleurs, les enseignants, tous sont véritablement mécontents. Vous savez, à Mokengeli, on a amené 20 congélateurs contre 60 qu'on devrait retraiter. Et puis, mais qui a dit au ministre que les enseignants avaient besoin de congélateurs? Parce qu'il y en a qui ont acquis ces biens-là à travers leurs enfants. Et donc, c'est un cafouillage que nous ne comprenons pas. Et puis, cette décision d'envoyer les enseignants à la retraite, mais ça devrait relever de la politique du gouvernement. Parce que le gouvernement doit chercher des moyens. Au moment où nous parlons, le ministre n'a pas de moyens pour envoyer les enseignants à la retraite. D'abord, dans un premier temps, il a parlé de 1 500 enseignants qu'on va envoyer à la retraite. Eh bien, il ne réussit pas à le faire. Maintenant, il parle de 380 à travers la République. Et après, pour Kinshasa, on a parlé, je crois, de 80 ou 60 enseignants qui doivent aller à la retraite. Donc, aucune planification.
Mais quand vous dites qu'aucune planification, si nous en tenons au principe de continuité de l'État, c'est vrai que le ministre Tony Mwamba n'a fait que 3 mois, mais il a hérité ce que nous appelons l'héritage politique, l'héritage social, l'héritage de la gestion également de la chose publique.
Oui, mais vous avez raison. La continuité de l'État, nous voulons bien, nous acceptons. Mais vous savez comment ce ministère a été géré sous Bakonga. Et donc la préoccupation de retraités, dès lors que même les NU n'ont pas trouvé gain de cause, personne ne pouvait penser aux retraités. Les enseignants doivent continuer à faire le travail. Nous devrons attendre la politique sur la retraite du gouvernement et du Parlement. Ça ne peut pas venir des ministres sectoriels. Le ministre de l'EPST n'est qu'un maillon de la chaîne. Il faut que la préoccupation de la retraite, qui est une préoccupation majeure pour les agents de l'État, pour les enseignants, cette préoccupation doit être remontée au niveau du gouvernement. Et on doit préalablement prendre des actes juridiques mettant ces enseignants à la retraite. On ne peut pas les faire tel que c'est fait aujourd'hui. Donc si nous parlons de continuité de l'État, il faut vraiment vous dire et dire à tous les auditeurs que sous Bakonga, cette question était véritablement sur la table, mais on ne pouvait pas l'aborder parce que le gouvernement n'avait pas des moyens comme aujourd'hui. Et alors, nous avons demandé au ministre de convoquer une commission paritaire qui pourra bien les sécuriser, parce que c'est dans cette commission qu'on va lever les options telles que celles de la mise à la retraite des enseignants. Malheureusement, bien, il n'a pas suivi, n'a pas écouté. Il travaille avec un groupe de syndicalistes qui sont des fonctionnaires de l'enseignement, et donc ce subalterne qu'il commande ou pas, vous comprenez que les enseignants ne peuvent pas accepter cela. Et nous mettons en garde le gouvernement, s'il ose mettre tous ces enseignants à la retraite, eh bien ça va créer un véritable dysfonctionnement dans le système éducatif congolais. Je crois que le ministre doit revoir cette politique-là qui n'est pas approuvée par l'ensemble des enseignants.
En des termes simples, j'ai reçu quand même beaucoup d'inquiétudes des uns et des autres sur ma page Facebook, et notamment de la population qui se pose la question pour un enseignant de carrière, qui celui qui a été gestionnaire de la craie blanche depuis 60 ans, il en sort avec 2 500 seulement. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez, le sentiment de regret?
Mais c'est un véritable sentiment de regret. J'ai été devant le ministre. Je lui avais posé la question de savoir quelle est la politique salariale du nouveau gouvernement, du gouvernement Tshisekedi. Parce que tous les gouvernements qui sont passés n'avaient pas défini la politique salariale. Mmh. Eh bien, le ministre, au lieu de se battre pour qu'au niveau du gouvernement, qu'on définisse la politique salariale, parce que lorsqu'il prend 2 500 $, mais c'est un forfait, sur base de quoi il calcule cela? Parce que l'enseignant n'a pas une base salariale reconnue aujourd'hui. Mmh. Et à plus forte raison, les camarades qui sont dans les provinces, j'imagine qu'ils ne vont pas toucher les mêmes fameux 2 500 $. Donc je crois que ce sont des entorses, et le ministre, absolument, il doit reculer. Parce que s'il ne recule pas, eh bien, il va hypothéquer tout ce que nous avons encore de précieux aujourd'hui. Au départ, nous avons cru qu'il allait travailler avec des vrais partenaires, c'est-à-dire il allait privilégier un partenariat responsable et pertinent. Mais on se rend compte aujourd'hui, pour des décisions de ce genre-là, eh bien, il recourt à un partenariat clientéliste, on ne peut pas accepter cela. Mmh. Il nous faut des rencontres d'harmonisation pour dégager un consensus autour du processus de paiement des indemnités de retraite. Il y a des calculs qui doivent être faits sur base desquels le ministre n'a pas fait un travail. Et donc, il doit aussi impliquer les partenaires sociaux pertinents à cet exercice, ce qui permettrait d'éviter la fraude. Donc, à ce jour, hier, je dois vous dire que c'est une grave déception et je crois que c'est une façon de pouvoir méconnaître tous les efforts du chef de l'État. Nous disons au ministre que la retraite qu'il veut donner aux enseignants n'en est pas une et il faut absolument qu'il revoie cela.
Voilà, on va poursuivre cette émission avec les auditeurs. Le temps de vous garder en ligne, monsieur Jean Bosco Opuna, secrétaire général de Sinecat et également membre de la synergie des syndicats de l'enseignement, je crois. Hein.
Porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la FDC.
Ah, porte-parole. Merci beaucoup. Alors, nous vous gardons à ligne, il est temps d'ouvrir les standards de notre côté pour accueillir Christian et Amos. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Christian en ligne qui est à Kinshasa. Christian, bonjour.
Bonjour Jerry, bonjour à l'invité.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution, Christian?
Merci de la parole accordée. Moi, je pense que tout porte déjà, à première vue, nous pouvons dire que tout porte à penser que cette mise à la retraite entre justement dans les cadres du rajeunissement du personnel enseignant, en particulier et de l'administration publique en général. Parce que déjà, cette mise à la retraite va créer ou encore va occasionner un effet boomerang sur la possibilité ou donnant la possibilité de promouvoir la jeunesse, c'est-à-dire résoudre d'abord les problèmes des NI et NP, et qui est vraiment omniprésent dans ce secteur depuis bien longtemps. Mais au-delà de ces quelques avantages, cette mise à la retraite présente également quelques soucis qu'il faudrait vraiment relever. Dans ce sens que ces soucis se figurent beaucoup plus dans le chef.
Oui, mais quand vous venez d'écouter notre invité qui dit que le ministre n'a pas favorisé un partenariat responsable, il a préféré travailler avec un partenariat clientéliste.
Bon, déjà, Jean Guembo, je crois qu'il faudrait saluer d'abord ce qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous que depuis, pratiquement depuis la première législature jusqu'à aujourd'hui, nous avons combien de ministres qui sont passés, mais qui sont ceux-là qui pensaient justement à la rajeunissement du personnel enseignant ou encore à la retraite de ce vieux enseignant moribond, qui sont aujourd'hui moribonds. Personne ne songeait à eux. Ils venaient toucher des miettes et d'aucuns ont été même cramponnés en cours de route parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer les transports, ils marchaient à pied, ils ont été éliminés par des véhicules à cause d'accidents. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est une chose.
Donc vous, Christian, vous trouvez que c'est responsable le 2500 qu'on remet à un enseignant de carrière qui a fait 60 ans?
Voilà pourquoi je vous ai dit que cette mise à la retraite présente également quelques soucis dans le chef justement des personnes retraitées. Notamment ce qui concerne l'enveloppe constitutive de cette pension de la retraite. Nous qualifions cette enveloppe d'inhumaine et elle est également dérisoire. Parce que cette enveloppe, Jérôme Guimbo, ne permet ni une retraite honorable, ni une succession familiale. Parce que il faut également le souligner que lorsqu'une personne, un parent est mise à la retraite, eh ben, la retraite doit être honorable et la retraite doit également être constitutive d'une succession familiale parce que le parent va mourir, mais qu'est-ce qu'il va laisser à ses enfants? Je ne me contredis pas, mais c'est le moment où je soulève quelques bémols par rapport à ce que nous avions constaté dans l'observateur. Et donc voilà pourquoi j'ai un guémon. Nous avions proposé ceci. Au lieu de se limiter seulement à cette somme de 2 500 $, il faudrait plutôt les considérer comme étant une somme ou une enveloppe des libérations techniques de l'enseignant par le ministère. C'est-à-dire que cette enveloppe soit constitutive d'un moyen pour l'enseignant de cesser à dispenser les cours et que le gouvernement, et que une fois que le ministère l'a mis donné la possibilité de cessation de dispenser les cours, maintenant l'enseignant est mis à la disposition du gouvernement, qui, ensemble avec ses partenaires traditionnels, vont maintenant chercher des voies et moyens pour libérer d'une manière financière l'enseignant. C'est-à-dire, on peut justement recourir au dernier palier. Si le dernier palier qu'on doit donner aux enseignants pourrait atteindre la hauteur de 300 dollars, on fait par exemple 300 dollars fois 36 mois qui pourra vous donner 10 800 dollars. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants touchent pratiquement, je crois, une affaire de 360 000 francs. Alors, il y aura un second palier. Alors, si ce palier-là sera 300 dollars, on prend les derniers paliers, soit 36 mois, ça pourrait donner une somme qui, à mon sens, ça pourrait facilement, ou d'une manière ou d'une autre, donner la possibilité aux enseignants de se taper ne serait-ce qu'une portion de terre et d'arranger, en fait, sa succession. Et c'est possible. Si on n'a pas les moyens ou les partenaires traditionnels tardent à venir, on peut réqualifier la taxe dite RAM pour soutenir justement les enseignants. On réqualifie la taxe dite RAM et les moyens qu'on va collecter avec ce RAM, on pourra facilement répondre à cette question. Donc, c'est de cette manière que nous entrevoyons la chose. Nous ne voyons pas noir partout, mais seulement nous avions décelé les points noirs et nous avions dit que ces points noirs peuvent facilement être lavés.
Merci beaucoup,
avec,
Christian.
Voilà, avec beaucoup plus de volonté pour que ces points noirs deviennent blancs et que tout le monde soit erré dans cette processus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Alors, Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour Peter, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre contribution, Amos?
Merci pour la parole accordée, JR. De prime abord, j'étais à saluer l'initiative du ministre de l'EPST, parce que nous ne cessons de dénoncer l'absence de la retraite à travers le pays, et plus particulièrement dans l'enseignement. Je tiens à vous surprendre et vous informer qu'à Bukavu, il y a un enseignant qui est mort à l'estrade à l'âge de 84 ans. Et c'était trop ridicule, et à travers la République, il y a beaucoup d'enseignants qui ont dépassé l'âge et qui voudraient être retraités, mais cela n'a jamais été le cas. Mais moi, je doute de l'initiative qui a été prise par le ministre, et je ne pense pas si ça va aboutir. Parce que la question que tout le monde est en train de se poser, est-ce que cette question figure dans le programme du gouvernement Sama? C'est la question que tout le monde se pose. Dédé, la question n'a jamais été débattue même au sein d'un conseil de ministres. On n'a jamais suivi cette question. Elle a été débattue au sein du conseil de ministres pour les faisabilités. De trois, quand on nous dit que chaque retraité est en train de recevoir, comme on l'a suivi, 2 500 $, et M. Dessert vient de le dire, et un congélateur, est-ce que vraiment nous tous nous connaissons la vie congolaise? Avec 2 500 $, qu'est-ce que quelqu'un qui a servi la République des années et des années, en train d'enseigner, on sait combien les enseignants ont toujours été clochardisés avec tous les gouvernements que nous avons connus au pays. Qu'est-ce que ces gens feront avec 2 500 $? C'est une question que tout le monde a déjà posée. Moi, je pense que le gouvernement Sama, les membres du gouvernement Sama Lukonde, devaient éviter les actions de charme, d'agir par populisme. Parce que cela risque de créer de sérieux problèmes, comme l'invité l'a dit, et il y aura des discutés à les résoudre. D'abord, je me dis, pourquoi il n'y a pas eu d'abord une commission qui pouvait circuler toute la République, parvenir à identifier les enseignants à l'âge de retraite, qu'on sache son nombre de combien, et que là, on se rassure que l'argent est disponible, qu'on leur donnera, et chacun aura combien d'argent. Au lieu d'agir par tâtonnement, nous ne savons pas comment nos dirigeants sont en train d'agir aujourd'hui, parce que on risque d'entamer cette initiative et demain ils seront bloqués disant qu'ils n'ont pas d'argent et ils risquent encore une fois de se limiter seulement dans la capitale,
ben voilà,
au moment où cette question devait
concerner l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé de Mbandaka. On va prendre le prochain auditeur. Allô? Maître Edmond, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Monsieur Gère. Bonjour à tous les auditeurs.
Comment vous réagissez-vous?
Bon, Monsieur Vier, moi je pense que nous devons quand même apprendre à apprécier des choses qui se font. Je pense que ce que le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba, est en train de faire, c'est une chose qui est louable, parce que vous allez voir que le gouvernement Samalukonde, c'est un gouvernement qui vient récemment d'entrer en fonction, et certaines choses que le gouvernement se bat à asseoir, ce sont les choses peut-être qui n'ont pas été prévues dans les budgets de l'exercice en cours. Parce que je viens de suivre celui qui m'a précédé, qui est en train de décrier le montant de 2 500 $. Moi, je pense qu'il faut apprécier, parce que le gouvernement congolais n'est pas comme une entreprise privée où lorsque vous quittez, on doit calculer les comptes finaux sur base de l'ancienneté, sur base des préavis et consorts. Parce que le gouvernement travaille sur base d'une prévision budgétaire. Et lorsque certaines charges ne sont pas prévues dans le budget, ça pose un problème. Et le gouvernement, ne pouvant pas s'en sommeiller comme ça, le gouvernement est libre de pouvoir apprécier, voir comment il peut trouver des solutions à certains problèmes. Voilà pourquoi le mécanisme retenu par le ministre de l'EPSP, c'est un mécanisme appréciable. C'est un mécanisme appréciable et que ça va quand même permettre aux enseignants qui ont presté il y a longtemps de pouvoir aller à la retraite. Et lorsque on pose le problème de l'identification, il fallait un contrôle. Non, le ministère de l'EPSP connaît tous ses enseignants. Voilà, parce qu'il y a toujours un fichier national qui identifie tous les enseignants et on sait que tel enseignant a débuté en telle année et voilà, aujourd'hui, il a accompli l'âge auquel il pourra quand même aller à la retraite. Je pense que c'est une très bonne initiative que nous appréciez le ministre et que le législateur congolais, c'est-à-dire que le Parlement pourra quand même lors du vote du budget de l'exercice prochain, pouvoir améliorer cette situation, mais prendre en compte quand même le rudiment qui ont été posés, qui étaient débités, commencé par le ministre de l'EPC. Nous devons l'encourager dans ce sens-là.
Merci beaucoup, Maître Edmond, 081-890-63-30, ou encore les 081-890-49-69, pour votre intervention en direct. Jérémy, vous êtes avec nous. Bonjour, Jérémy. Allô, Jérémy? Jérémy, vous êtes avec nous?
Oui, Monsieur JR.
Vous avez la parole.
Bonjour, Monsieur JR.
Vous avez la parole, Jérémy.
Ah oui, merci beaucoup, Monsieur JR. Bonjour également à l'invité. Nous saluons de vue voir ce geste de grande envergure, n'est-ce pas? Surtout dans les registres de rémunération des retraités, surtout dans les secteurs éducatifs, au niveau du primaire. Mais ce qui nous fait un peu mal, c'est que ça, c'est au niveau seulement de la capitale RD congolais. On le sait bien que et la RDC n'est pas seulement Kinshasa. Alors, quand même, ces gestes sont à saluer à juste valeur. Mais nous voudrions que ça puisse s'étendre sur toute l'étendue de la RDC. Mais alors, nous osons croire que ces enseignants auraient mérité plus que ce qu'on leur a proposé par l'État, n'est-ce pas, pour en dépit aussi des loyaux services rendus à la nation congolaise. Alors, si vous regardez bien... Si on regarde les dirigeants de notre pays, on le sait bien parce que tout le monde est passé par les professionnels de la clé et les raclés, et par conséquent, on doit quand même donner beaucoup d'estime à ces personnes parce qu'ils rendent vraiment des services vraiment des titans. Alors, il y revient. Moi, je pensais qu'ils auraient mérité plus parce que l'État congolais devrait normalement. Parce qu'on le voit, lorsqu'il y a des grandes personnalités dans notre pays qui meurent, il y a des titres honorifiques qu'on leur accorde, il y a les institutions, on leur accorde des émoluments de taille, mais à combien plus forte raison les enseignants qui sont là, qui sont en train de forger les têtes pensantes pour, n'est-ce pas, le devenir de notre pays. Maintenant, moi, je pense qu'il fallait que l'État congolais revoie un peu à la hausse, donc, c'est-à-dire, ce qu'il leur a accordé. Parce que, vous regardez, si vous confrontez un peu la situation économique de notre pays, le pouvoir d'achat face à ce qu'on leur a proposé comme étant pris, donc, c'est-à-dire, frais de retraite, moi, je pense qu'on aurait peut-être on devait revoir cette question peut-être au double pour permettre à ce que ces gens-là qui vont à la retraite ne soient pas condamnés à précipiter leur mort. Parce que moi, je me dis à ce stade, avec 2 500 $, avec la vie sur terrain, avec ces gens qui ont rendu des loyaux services à la nation congolaise, qu'est-ce qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas? Il fallait de prime abord voir comment est-ce qu'on peut amener ces gens à passer le reste de leur vie en toute quiétude et sans souci. Et peut-être avec tous ces aléas, ça peut les amener encore à précipiter leur mort. Mais ce que nous savions, c'est que peut-être, c'est peut-être des jalons qui ont été posés et les gouvernements est allé à saluer parce que peut-être ils ont des gestes qui n'ont pas connu d'éclat la fois passée. Mais aujourd'hui, on voit que quand même le gouvernement est en train quand même de faire des efforts conséquents. Nous voulons que dans tous les secteurs, que cela soit vraiment, puisse aider, quand même qu'on puisse quand même donner donc des moyens conséquents à tous se redresser. Parce que surtout quand on parle du domaine dans ce secteur de l'enseignement, on se dit tout ministre, que ce soit ministre ou autre dirigeant, tout ce monde-là sont passés par là. Mais il fallait rendre l'ascenseur à ces gens-là qui ont taillé ce pays à cette dimension. Parce que en 1960, vous vous rendez compte, on avait combien d'intellectuels dans ce pays? Si nous regardons depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, on comptait combien de cadres universitaires et on comptait combien de gens instruits. Mais si aujourd'hui on en arrive là, on voit presque tous les enfants, donc toutes les autorités taillées à la mesure du possible. On peut se dire que non. En tout cas, il y a des gens qui ont rendu des services pour qu'on arrive là où on est. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être leur accorder tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent en retraite, en toute quiétude, et qu'ils disent merci pour l'État congolais, pour tout ce que nous avons donné. Et voilà ce que vous nous avez remis en retour. Ça peut nous amener peut-être
merci
à
beaucoup.
Rester dans une situation favorable.
Voilà.
Commencer peut-être à voir. Mais ce que nous saluons, c'est vraiment des gestes encouragés.
Merci.
Et nous disons, ça doit continuer comme ça, ça doit rester dans cet élan.
Merci, merci beaucoup, Jérémy Mwamba, d'avoir appelé de Lubumbashi. Vous avez pratiquement rejoint Christian, qui a beaucoup plus souligné que l'intention elle est très très bonne et l'acte est appréciable, mais le processus pour enchérir notre invité, Christian a dit qu'il est tout aussi biaisé. Alors il a fait quelques propositions, comme vous également, mais Amos a en tout cas été catégorique en disant que c'est pratiquement une action des charmes pour attirer les uns les autres. Il a été pratiquement son point de vue n'a pas été partagé par Maître Edmond, et vous également, vous êtes resté dans cette ligne de pouvoir soutenir cette action. Merci beaucoup. Alors on va écouter Pierre Moussafiri avant de retrouver notre invité. Pierre Moussafiri, vous êtes à Goma. Bonjour Pierre.
Bonjour Jérémy, bonjour à tous et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau d'échange?
Merci beaucoup. Je dirais que l'acte posé par le gouvernement à travers le ministre de l'EPC en envoyant près de 385 enseignants au niveau du primaire à Kinshasa en retraite est en soi bonne. Mais le problème est que la somme que les ont offerte est encore maigre. Monsieur Juillet, un enseignant qui travaille pendant des années et des années et à la fin de sa carrière, on lui donne 2 500 $. C'est bien parce qu'on a toujours dit qu'un 1 et 0 ne sont pas les mêmes. Mais je trouve que cela ne suffit pas comme une récompense à ces enseignants que nous avons tous passé entre leurs mains avant d'être ce que nous sommes. Alors, ce que nous pouvons demander à ce gouvernement après avoir salué cette initiative est de revoir l'enveloppe à offrir à ces agents et que cela soit fait sur toute l'étendue de la République. Et dans tous les secteurs, en donnant par exemple chacun une somme de 3 voire même 5 ans. Et je pense qu'avec la retraite, avec une montant pareil, on peut faire, la personne retraitée peut faire une activité qui va chaque fois lui apporter des revenus et continuer avec la vie au lieu d'être retraité avec une somme qu'il va utiliser dans quelques jours pour commencer avec la mendicité.
Merci beaucoup Pierre Moussafiri, 081 890 6330 ou encore les 081 890 4969 pour votre intervention en direct.
Voilà Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
On poursuit avec parole aux auditeurs avec vous, Jean Bosco Pouna, secrétaire général de Sinecat et également porte-parole de la Synergie et des syndicats des enseignants. Alors, vous avez suivi cette première série des auditeurs. Comment réagissez-vous, Jean Bosco?
Oui, merci. J'ai suivi les auditeurs, mais je voudrais leur rappeler que le projet de la mise à la retraite n'est pas un nouveau projet. C'est un vieux projet qui se trouve sur la table de tous les ministres qui passent au niveau de l'EPST.
Depuis Makere Mwangu, soulignons-les.
Mais bien sûr, depuis Makere Mwangu. Et si ce projet n'a pas été mis en exécution, simplement parce que nous, au niveau du syndicat, défenseurs des enseignants attitrés, nous nous étions dit, étant donné que le gouvernement n'arrive pas à mettre en place, à trouver les moyens pour mettre à la retraite dignement les enseignants, eh bien, nous n'avions pas accepté cela. Aujourd'hui, on reprend les projets et on veut l'exécuter à la vaille que vaille, nous ne pouvons pas accepter. L'intention, les auditeurs l'ont dit, c'est une bonne intention, oui, mais quel est le contenu de cette retraite-là? Si c'est pour envoyer les enseignants à la mort, nous les bénéficiaires, nous les enseignants, nous ne pouvons pas accepter cela. Je reviens sur la question relative à pouvoir libérer les enseignants vieux parce qu'ils ne savent plus très bien faire le travail. Mais vous allez remplacer ces enseignants par qui? Parce que l'EPST, c'est un domaine qui requiert de l'expertise. Ça veut dire, lorsque nous voulons envoyer les enseignants à la retraite, nous devrons suffisamment nous préparer pour savoir à quels enseignants on va devoir les remplacer. C'est un travail d'identification méthodique qui doit être mené sur terrain, et ça, je dois vous rassurer que ça n'a jamais été fait. Ce travail doit être fait pour que le secteur qui a déjà un véritable problème de la qualité de l'enseignement ne puisse pas sombrer. On nous parle des NU. Est-ce que nous connaissons la qualité de tous les NU, surtout les NU qui ont été recrutés récemment? Donc là aussi, c'est un véritable problème. Il y a ce problème de la relève qu'il faut absolument résoudre, et on les résout froidement, pas dans une approche populiste. Il y a également cette approche de la qualité de la cagnotte pour ne pas envoyer à la mort l'enseignant qui a servi pendant 80 ans. J'ai suivi là l'enseignant qui est tombé dans une salle de classe. Eh bien, nous voulons envoyer ces enseignants à la mort. Non, le Sinecat et la synergie des syndicats des enseignants disent au ministre, le projet n'est pas nouveau, c'est un bon projet, nous avons jaugé sa bonne foi pour aller de l'avant, mais la procédure qui est prise, elle est vraiment biaisée. Il faut absolument que le gouvernement définisse une politique avec ses partenaires pour que finalement les enseignants qui vont partir partent avec les indemnités de fin carrière qui pourront leur servir. Parce qu'à ce jour, toutes les promesses qui sont données, même les 2 500 $, je continue à dire que ce sont des promesses. Et donc ces enseignants risquent de se retrouver à la maison sans indemnité de fin carrière. Ils vont attendre une caisse de retraite à mettre en place, voyez-vous encore, une caisse de retraite à laquelle les enseignants n'ont pas contribué, ils sont à la fin, en fin carrière, on va mettre en place cette caisse de retraite en allant encore vers les enseignants pour prendre $5 auprès de chaque enseignant pour aller alimenter la caisse. Je crois que le gouvernement ne peut pas aller sur cette voie-là. Sinon, en tout cas, ça sera très difficile dans le secteur de l'enseignement. Donc, nous sommes d'avis qu'il faut retraiter les enseignants, mais il faut respecter la procédure qui veut que les enseignants qui vont devoir remplacer les vieux, qui ont enseigné dignement, avec des connaissances avérées, qu'ils soient remplacés par des bonnes personnes. Et ça demande une identification fiable. À ce jour, cette identification n'a pas été faite.
Alors, où sont-ils passés les partenaires internationaux traditionnels? Il y a quelque temps, on a parlé de la Banque mondiale pour la mise en retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Je pense qu'à ce niveau-là, on prenait aussi en compte des enseignants.
Mais bien sûr, on prenait en compte les enseignants. Non, je crois que la première vague de retraités qu'avait connue l'administration publique, on avait, pour les raisons que je viens d'avancer ici, par rapport à la particularité du secteur, hein, regardez, J.R., vous prenez l'EPST, vous prenez l'enseignement supérieur. Comment vous allez envoyer à la retraite des grands professeurs d'université et sans leur donner les moyens qu'il faut? Des enseignants du primaire hein, qui ont pressé, qui ont été très bien formés et qui donnent une très bonne formation aux élèves, à des NU qu'on ne maîtrise pas, à des NU qui sont issus de la prise en charge des enseignants par les parents. Mmh. Et donc, il faut véritablement les identifier. Peut-être que nous trouverons un nombre, progressivement, on va commencer, on va les remplacer progressivement en tenant compte de la qualité des NI qui doivent les remplacer, Mais par ailleurs, la question de la cagnotte, des indemnités de fin carrière, ça c'est à l'encontre, vraiment, le ministre est allé à l'encontre de la loi, parce qu'il porte préjudice à la vie des enseignants.
Alors,
il faut qu'il y ait une commission qui fait des vrais calculs pour ressortir les montants. Tout en comprenant également les difficultés que le gouvernement a. Nous ne mettons pas ça de côté, mais il faut absolument qu'on respecte la procédure.
Alors, avant de retrouver, il y a Franck qui est encore là, parce que qui vont intervenir, la question de la CNSAP. Parce que ça, cette question soulève également les débats sur ça. Et qu'est-ce que fait exactement? Comment ça évolue, CNSAP? Parce que ça prend en compte, c'est la Caisse nationale de sécurité de l'administration publique, non? Je sais pas si j'ai massacré ça.
Oui, mais même là, à la CNSAP, voilà pourquoi nous sommes très opposés à la caisse de retraite que le ministre est en train de vouloir mettre en place pour que, finalement, cette caisse puisse prendre en charge les enseignants retraités. Déjà, la CNSAP, là, ne marche pas, ne fonctionne pas. C'est une véritable un véritable canard boiteux, parce que les prémices du départ ont été biaisées. Une caisse de retraite doit être définie déjà au niveau du Parlement, parce que il faut un engagement collectif du gouvernement pour que nous comprenions comment une caisse de retraite va devoir fonctionner. On y met des moyens, aussi bien au niveau interne qu'au niveau des PTS, donc des partenaires techniques. Mais aujourd'hui, là, le ministre n'a pas encore sa caisse de retraite. Nous savons qu'il y a déjà un groupe de gens qui doit diriger cette caisse de retraite, mais nous ne savons pas où est-ce qu'il est en train d'aller. Donc, il est difficile aujourd'hui. En tout cas, nous mettons notre main à couper. Il est difficile aujourd'hui que ce processus continue. Ça va être bloqué simplement parce que le gouvernement, le ministère dit qu'il va travailler avec les ressources propres. Mais d'où va-t-il tirer cet argent-là? Où est-ce qu'il va trouver ces fonds? Parce que déjà, on nous a parlé des 100 000 qu'on devrait rajouter au salaire des enseignants. Vous savez que au mois de juillet, les enseignants qui attendaient n'ont pas eu les 100 000 francs congolais. Donc, il ne faut pas annoncer des choses qu'on ne saura pas par la suite faire, parce que ça va créer un dysfonctionnement dans le secteur, et c'est lui-même, le ministre, qui en paiera les frais.
Voilà, alors, il y a Franck qui nous a rejoint. Franck, vous êtes avec nous. Nous vous gardons en ligne, hein, monsieur Jean Bosco Pouna. Et nous rappelons que vous êtes le secrétaire général de Sinecat, et également porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Alors, Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour mon ami Gilles, bonjour à l'invité, bonjour à tous les amis, à tous les auditeurs de la radio.
Alors, vous êtes également de la formation en sociologie. Et quand vous avez appris cette initiative du gouvernement congolais de pouvoir mettre en retraite ceux qui ont fait carrière au niveau de l'enseignement primaire, alors comment avez-vous réagi?
Je vais commencer par dire ma réaction, après je vais argumenter. Bon, Niger, c'est injuste, c'est vraiment inhumain, on ne peut jamais l'accepter parce qu'on ne peut jamais traiter des citoyens comme ça. Mais quand un enseignant commence à travailler, c'est en fin de chaque mois qu'on soutire sur son salaire déjà maigre, un pourcentage qui est versé à la caisse sociale. Et comment on peut nous expliquer qu'à la fin de sa carrière, au lieu de lui dire qu'il devrait le bénéficier jusqu'à la fin, on lui verse seulement, on lui donne seulement pour 13 mois. Il a travaillé pendant 40 ans, pendant 45 ans, pendant 50 ans, il y en a qui vont même jusqu'à 55 ans, et chaque mois il paye, d'abord avec un salaire maigre, et à la fin, on lui donne seulement pour 13 mois. Donc nous devons cesser de dénoncer ces injustices au niveau de la politique sociale. Parce que si déjà dans un pays, on néglige quelqu'un qui est enseignant, quelqu'un qui a la mission de former les citoyens, quelqu'un qui a la mission d'éduquer, d'instruire, mais quel est encore l'avenir que peut espérer ce pays? Donc c'est vraiment méchant. Je crois qu'on n'a pas d'autre mot à qualifier ça. C'est vraiment méchant, ça ne peut jamais être comme ça, parce que on leur donne, je vois là, 2500 dollars. Est-ce que mon ami Gilles, on peut donner à quelqu'un 2500 dollars, s'il a par exemple 65 ans, jusqu'à la fin de 100 ans. Dans une ville comme Kinshasa, on va donner 2500 à quelqu'un? Non. Je crois que la justice sociale, c'est quand on doit tenir compte de l'équilibre, de l'équité. Donc un enseignant, ce n'est pas quand même n'importe qui. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a un parcours, qui a étudié, qui a travaillé, qui a payé ses taxes. Et pourquoi, comment on peut nous expliquer? Parce que moi, jusque-là, comme sociologue, je ne peux pas comprendre qu'à la fin de chaque mois, qu'on soutire à un enseignant tel pourcentage, 10 à 15% de son aide salaire, et à la fin, on lui donne seulement 5 000 ou 2 500 dollars. Non, mon ami Gilles, c'est injuste, nous ne pouvons jamais le faire. On ne peut jamais se taire. On doit le faire savoir et aux députés, et aux ministres, et à tout le monde, qu'on ne pourra jamais faire développer la RDC tant qu'on aura une telle politique sociale. Ça ne peut jamais être accepté. C'est pas juste. Non. C'est pas juste. Voilà, alors, nous, mais... enseignants, de nos parents, de nos tantes, de nos amis, qui peuvent faire. Ça signifie que le métier d'un enseignant, c'est quelque chose qu'on peut banaliser, on peut se jouer avec tout le monde, alors qu'il y en a qui ont la mission de former.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. Alors, on va prendre Marie-Paul. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Vous avez la parole, quelle est votre contribution?
Oui, mais monsieur le journaliste, c'est la mesure prise par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire, technique pour retraiter près de 385 enseignants du niveau primaire de Kinshasa, un fondeur illégal. Et pourquoi fondeur? C'est parce que on doit quand même, lorsque quelqu'un a travaillé, qu'il a atteint le nombre des années et que le nombre des années recuse par les textes réglementaires et légaux, il doit être retraité. Alors, bien que cette mesure apparaît louable et constitutionnelle, mais son application est parodique, monsieur le journaliste, de l'esprit de la lettre, des droits du travail, et pourquoi pas de la constitution de la RDC et de l'Organisation internationale du travail. Pourquoi je le dis? Parce que si nous voyons la manière dont on est en train de payer les gens, il y a quand même des soucis par rapport à ces dispositions que je viens de relever, parce que la retraite, et lorsque quelqu'un prend sa retraite, il doit avoir son décompte final conformément à ces textes-là, et non essayer de présenter un montant modique au motif qu'on doit les retraiter. Alors, cette modicité de sommes données n'est pas conforme à ces dispositions-là. Ce n'est pas conforme. Parce que, bien que l'esprit des ministres est d'enseigner le secteur de l'enseignement primaire, mais on ne peut pas enseigner par la violation des textes. On ne peut pas enseigner en créant encore des mots incommensurables à ceux-là qui ont servi les pays pendant très longtemps et qu'ils sont à la fin, ils ont atteint le nombre d'années recusées par les textes et qu'on doit leur justement donner des choses qui n'ont rien à voir avec ces textes-là. Alors, à mon sens, monsieur le journaliste, la retraite, c'est un droit et un devoir. Alors, les gouvernants de la RDC doivent tout simplement appliquer cette disposition de manière légale pour que les retraités puissent bénéficier justement des droits qui leur sont reconnus par les textes réglementés en vigueur dans notre pays. Et c'est ce qui va faire que les systèmes d'enseignement primaire et secondaire soient réellement assainis et que ces ministres veuillent.
Voilà, on a perdu Marie-Paul. Je crois qu'on a des petits soucis avec la liaison. On va prendre François qui est à Mouika. François, vous nous avez rejoint.
Bonjour, Monsieur Lungemo. Bonjour, Madame Jocelyne. Et bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, François.
Merci beaucoup, une fois de plus. C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement central Sam Likonde, dit de Wario, pour ses gestes combien louables. Les vieux enseignants qui n'avaient plus d'espoir, cette somme doit servir tant soit peu et les soins de santé rassurés. C'est ici où je présente mes très sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre national de l'EPC, et exhortons le gouvernement d'élargir ses gestes dans tous les domaines publics, Monsieur Géolinguem. Vous savez, il y a beaucoup de services aujourd'hui que l'État a négligé pour prendre soin des vieux qui ont servi, qui ont rendu des services sous la loi à la nation. Je pense que si le gouvernement Samalou Kondé pourra élargir Et ces gestes dans tous les domaines, ça sera une bonne chose.
Oui, mais ceux qui disent que le 2500, c'est insignifiant. Alors, quelle est votre réaction, François?
Écoutez, je l'ai dit, insignifiant par rapport à quoi? Écoutez, vaut mieux avoir quelque chose qui a manqué. Nous avons connu des gouvernements qui sont succédés. Est-ce qu'il y a eu des tels gestes? Écoutez, je l'ai dit, vous êtes à Kinshasa, là où vous vivez. 2 500 $, c'est qui vaut 5 millions. À la place des noviers là, ça doit leur servir avec des congélateurs et consoles, et d'ailleurs, on prend en charge de leur soins de santé.
Mais quand on a les congélateurs et qu'on vit dans un quartier où il n'y a jamais de courant, mais ça risque de devenir un décor?
Non, ce n'est pas un problème. Nous ne pouvons pas avoir une politique négative. Qu'est-ce que je vais dire? Une politique négativiste. Non, écoutez, si le gouvernement fait quelque chose de bon, nous devons applaudir. Je suis analyste politique. Je ne dois pas seulement être agir dans la masse où les gens disent que le gouvernement n'a rien fait. Ici, nous devons encourager le gouvernement et nous l'exhortons de faire mieux que ce qu'il a fait. D'abord, c'est une manière progressive, mais c'est le mot.
Merci beaucoup, François, d'avoir appelé de Mweka. Là, nous sommes au Kassai. Alain Bolodjob, vous êtes avec nous. Avant de retrouver notre invité, on aimerait quand même vous écouter. Quelle est votre réaction par rapport à cet acte que vient de poser le gouvernement congolais, l'acte apprécié par les uns et aussi, en tout cas, trouvé mitigé et pas très appréciable par les autres qui pensent que, bon, les 2500 qu'on a donné aux enseignants qui ont fait carrière et qui ont été des professionnels de la CRE pendant plusieurs années, c'est pratiquement moqué d'eux. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, je le partage et c'est en tout cas c'est quand même décevant. Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Vous savez, par moment on se pose la question s'il y a réellement de politique dans ces pays, de politique publique tendant à améliorer les conditions de vie. Nous avons connu des politiciens qui n'ont pratiquement rien fait pour la République, mais qui sont pris en charge à vie, justement parce que ce sont eux qui prennent des grandes décisions sur la République. Chaque fois quand il y a un ministre ou le membre de cabinet sont choisis, on leur donne l'indemnité de sortie équivalent à 6 mois de leur salaire. Ce qui veut dire que l'enseignant, qui est déjà en principe sous-payé, il a eu à prêcher pendant toute une carrière. Et pendant qu'il prêche, il n'a même pas la capacité de mobiliser 5 000 $ l'an. Et à la fin de sa carrière, on lui donne 2 500. C'est vraiment, il n'y a pas plus grande insulte que ce que nous vivons. Mais nous devons reconnaître que ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui en sont responsables. Il faut le reconnaître. Parce qu'en réalité, Lorsqu'on recrute un enseignant, dès le premier jour qu'il commence à prester, on doit déjà envisager comment sera sa sortie. Parce que ce qui est vrai, le temps de travail ou le délai de contrat est signé sur le délai du contrat est basé sur une disposition du contrat de travail. Lorsque vous engagez quelqu'un et qu'il preste pendant des années, à la fin, on lui donne pas un montant forfaitaire. On devait en principe calculer sur base de son salaire. Et ce qui est décevant, l'âge de la retraite est fixé à 25 ans, mais il y a des ceux qui vont même à 70 ans, et aujourd'hui vous leur accordez 2 500 $, mais pendant toute leur vie, ils ont eu à travailler pour l'État. Ils vont vivre comment avec 2 500 $? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver une autre solution? Parce que si vous amenez des gens à la retraite, est-ce que vous leur donnez 2 500? Ils n'ont plus d'autres sources de revenus.
Mais Alain, il fallait commencer quelque part. Parce que les gouvernements qui se sont succédés, personne n'en a pu. En tout cas, aucun de ces gouvernements n'a pu résoudre
Non. On ne peut pas commencer quelque part en violant les droits des autres. Nous ne parlons pas des charlatans, nous parlons des enseignants. Des gens qui arrivent à modeler l'homme, à nous donner la forme à la société. Vous ne pouvez pas donner à un enseignant 2 500 $ comme indemnité de sortie. Non, on ne peut pas commencer avec
alors, on se pose la question.
Il y a des véhicules de députés, il y a des véhicules de ministres, du président de la République qui vous consomment par an 2 500 $. Et vous donnez à un parent, quelqu'un qui a passé pendant plus de 30 ans, vous lui donnez 2 500 $ à titre de remerciement. C'est pas
cette ressource.
En quoi faisons?
Merci
vous
beaucoup.
Vous leur demandez d'apporter le projet bancable.
Merci.
Mettez-nous dans la liste des gens qui peuvent bénéficier des financements.
Des crédits au niveau de banque.
Parce qu'on ne peut pas clôturer un contrat avec 2500 dollars. C'est vraiment méchant de la part de politiciens.
Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Alors on revient à vous Jean Bosco Pouna. Là ça me pousse à réfléchir un peu à tout haut, disons à haute voix, sur ce qu'est fait exactement le Fonds National de l'Éducation. Parce que les partenaires ont mis de l'argent. Le gouvernement a sorti aussi de l'argent qu'on a versé dans ces projets. Mais qu'en est-il au juste?
Bon, le Fonds National de l'Éducation, mais il faut dire
ça, c'est également une escroquerie, comme vous voulez le dire.
Mais ça c'est un fonds que nous avons presque raté. Vous savez que ce fonds-là, lorsqu'il a été créé sur demande de syndicats, moi personnellement, j'ai représenté le SINECAT pour exiger le Fonds National de l'Éducation. Le fonds a été mis en place, il y a eu une ordonnance qui avait été signée, mais par la suite, on a placé des politiciens pour gérer ces fonds. Mais maintenant, pour la mutuelle de santé des enseignants,
c'est la même
chose. Mais le ministre dit que la prise en charge de ces enseignants qui seront retraités, ça sera la caisse des retraites, ça sera la mutuelle de santé. Mais je crois que le ministre n'est pas véritablement à sa place. Parce que la mutuelle de santé des enseignants, c'est une mutuelle qui est bradée aujourd'hui. Hein, les enseignants contribuent, mais c'est une mutuelle qui a été privatisée, bradée par des prédateurs. Et il dit que c'est cette mutuelle qui va prendre en charge les enseignants retraités. Mais il n'a pas pitié de ces gens, de ces pères qui l'ont formé. Il y a également la caisse de retraite. Mais les 5% qu'on va... Où est-ce que l'enseignant va trouver ces 5% au moment où son salaire est déjà modique? Donc tous ces fonds-là, ces institutions-là pour lesquelles nous nous sommes battus, qu'on a mis en place, eh bien, c'est bradé parce que les politiques ont voulu à tout prix gérer ces différentes institutions. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc, ces fonds-là ne peuvent pas permettre que l'on puisse dégager des fonds. Mais alors, revenons à la retraite. Nous disons simplement que jusqu'à ce jour, à ma connaissance, c'est encore une promesse. Mais nous savons que ces enseignants-là seront surpris. On veut les mettre de côté pour les remplacer par d'autres. Ça sera une grave violation. Parce que beaucoup d'enseignants vont perdre leur vie. Il y a un désespoir terrible au moment où nous parlons dans les milieux des enseignants, notamment ceux qui ont atteint l'âge. Donc je crois qu'il faut absolument que le gouvernement, par moment, écoute les cris de sa population, écoute les cris des enseignants. La procédure a été biaisée, a été viciée. Nous tous, nous savons que nous avons besoin de faire reposer les vieux qui ont longtemps travaillé pour requinquer les secteurs, notamment l'enseignement primaire, c'est la base. Mais la procédure viole tous les textes légaux en la matière, et les textes nationaux, et les textes internationaux. Je crois que le ministre, en sa qualité d'avocat, il doit reculer au lieu de continuer à s'obstiner, parce que cette retraite-là, les enseignants ne l'accepteront pas.
Voilà, alors, parce que d'aucuns redoutent le détournement dans cette affaire de la mise en retraite des enseignants. Est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle des sorties de ces fonds? Parce que nous ne voulons pas que demain, que l'IGF s'invite encore dans l'affaire.
Oui, mais il faut déjà dire que lorsque vous prenez des décisions comme ça, et que tous les syndicats, les partenaires sociaux ne sont pas représentés, c'est-à-dire ils sont évités, ils sont exclus, parce qu'ils ont un discours contraire. Mais vous comprenez déjà que on peut suspecter surtout, parce que en matière de retraite, même lorsque ça a été fait une fois à la fonction publique avec l'apport des partenaires de la Banque mondiale, eh bien on a exigé l'accompagnement des syndicats. Je vais parler des syndicats pertinents, pas des syndicats qui sont rétribués par les CECOP. Non, nous parlons des syndicats qui défendent effectivement les enseignants sur le terrain, comme la synergie le fait. Et donc, si vous ne le faites pas comme ça, il n'y aura pas contrôle, et nous ne savons pas quelle est la direction que prendront tous ces fonds qu'on va mettre à la disposition du ministère. Donc, alors, il faut absolument qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait des commissions. C'est pourquoi nous continuons à exiger une commission paritaire, parce que le front social va devoir, vous avez vu avec les infirmiers, vous avez vu avec les médecins. Maintenant, ça sera avec les enseignants, et la gratuité, au moment où nous parlons, c'est une gratuité qui a démotivé totalement les enseignants.
Voilà.
Simplement parce que le gouvernement ne tient pas les différentes promesses, et il ajoute les problèmes de la retraite. Je crois qu'il doit faire très attention.
Merci beaucoup, Jean Bosco Opuna, secrétaire général de Sinecat et porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Merci d'avoir bien voulu partager ces moments ensemble avec vous et avec les auditeurs qui sont éparpillés à travers le pays et à l'étranger. À très bientôt, Jean Bosco.
C'est moi qui vous remercie. Merci à Radio Okapi.
J'ai dit également merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. On prend rendez-vous avec vous, chers auditeurs, demain, dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.